Bonjour Raquel Garrido.
Bonjour.
Comment vous qualifiez ce gouvernement qui a été mis en place hier par Emmanuel Macron? Si vous deviez utiliser un adjectif, vous diriez quoi?
Je dirais que c'est un gouvernement de droite.
Point. Comme a dit Mélenchon exactement hier.
Disons que vous
Jean-Luc Mélenchon, pardon,
vous
pour cette familiarité.
Vous me demandez un seul mot, j'essaie
d'accord.
De répondre selon la prescription de la question. Après, évidemment, c'est plus complexe, parce que on y trouve, en plus de ces personnalités de droite, soit qu'elles soient de droite directement ici des partis de droite, c'est-à-dire les Républicains, Modem... donc la droite historique du centre et du droit, soit que ce soient des personnalités de la société civile de droite. Je pense par exemple au directeur de l'ESSEC, qui est devenu ministre de l'Éducation.
Oui, qui était le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, qui a été recteur d'académie. C'est pas seulement l'ancien directeur de l'ESSEC.
Voilà, qui là, par exemple, avait écrit un livre programme sur les questions éducatives qui avait servi à inspirer les candidats de la primaire de droite, dans laquelle, par exemple, il disait, ça m'a frappé dans un compte-rendu que j'ai lu, qu'il était pour que l'enseignement professionnel, qui représente la moitié d'une classe d'âge, ne soit plus intégré à l'Éducation nationale, mais qui soit transféré au niveau des régions. Donc là, ça casse vraiment le principal système éducatif de la classe ouvrière de ce pays et de ceux qui fabriquent les techniciens. Et c'est très, très grave, très dangereux. Donc on voit quelle est l'idéologie derrière ces personnes, même issues de la société civile.
Alors il y a justement parmi les ministres venus de la société civile des personnes qui semblent faire une relative unanimité, dont il est difficile de nier la compétence sur leur dossier. Par exemple, la nouvelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui est assez saluée, vous l'avez sans doute entendu, aussi bien du côté du patronat, que par le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui y voit une nomination rassurante. Pour votre part, comment prenez-vous le choix de Muriel Pénicaud, l'ancienne directrice des ressources humaines de Danone, et qui a travaillé il y a de longues années avec Martine Aubry?
Oui, moi je pense que Muriel Pénicaud, comme d'autres dans ce gouvernement, font partie de ce qu'on appelle, c'est la mouvance dans ce pays de l'aile droite de la social-démocratie, hein, c'est-à-dire effectivement Rocard, Aubry, Delors, enfin ces personnalités qui, depuis des années et des années et des années, cherchent à faire basculer ce qu'on appelait la gauche vers des politiques économiques plutôt de droite. C'est d'ailleurs à cause de cette mouvance-là qu'aujourd'hui on peut plus distinguer, hein, chez la plupart des gens, entre droite et gauche. Les gens, ils se disent, ben si c'est ça la gauche, alors c'est de droite. Bon. Donc là, on est en plein dedans, on est en plein dans l'effacement en fait de ces différences pour une homogénéité. C'est-à-dire, ils pensent tous vraiment la même chose, que ce soit Bruno Le Maire, Darmanin, donc de la droite, Modem, Madame de Sarnez, ces personnalités, Gérard Collomb, Le Drian, enfin, tout ça, finalement, c'est un groupe très homogène idéologiquement. Et eux leur thèse, c'est que il faut pas se fâcher avec le milieu d'affaires, donc il faut pas trop partager.
Un mot de Nicolas Hulot. Jean-Luc Mélenchon a parlé hier de crève-cœur à propos de la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'Environnement. Vous diriez les choses comme ça aussi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui vous aviez une forme de sympathie et dont la nomination dans ce gouvernement vous déçoit?
Bien sûr, on a beaucoup de sympathie pour Monsieur Hulot. Alors, bon, c'est sûr que comme on le connaît, on se dit, on se met un peu à sa place et avec un peu d'empathie, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Après, quand on prend du recul, c'est évident que c'est plus que décevant. Disons que c'est une situation qui est périlleuse parce que l'écologie, la protection de l'écosystème, c'est un sujet qui est trop important pour être laissé à des arbitrages entre ministres. C'est-à-dire que tout le monde, ce que se disent les observateurs, c'est qui va l'emporter entre Bercy et Hulot, entre le Premier ministre qui est pro-nucléaire, puisqu'il a été lobbyiste chez Areva, et Hulot, entre Monsieur Macron et Hulot, qui va l'emporter? Donc là, comme ces hommes sont jetés en pâture avec des rapports de force, alors que la question écologique, elle doit être au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça, et ça doit émaner directement d'une volonté des Français de dire, nous voulons une politique de transition écologique qui préserve l'écosystème. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu des élections législatives, d'ailleurs, parce que la meilleure façon d'aider Nicolas Hulot, c'est qu'il y ait une majorité de députés insoumis à l'Assemblée nationale qui, du coup, imposeront une vraie politique de transition écologique.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, compte tenu du fait que Nicolas Hulot avait jusqu'à maintenant refusé d'entrer dans tout gouvernement, qu'il ait obtenu des garanties, des marges de manœuvre pour accepter cette proposition-là?
Je ne sais pas. Ou alors, on peut imaginer peut-être qu'il est venu à un point de sa vie où il avait envie d'être ministre. Peut-être qu'il aurait aussi accepté d'être ministre de Jean-Luc Mélenchon, qui sait.
Alors, votre objectif, puisque vous en parliez, c'est finalement que ce gouvernement soit éphémère et qu'il disparaisse après les législatives. C'est bien ça, c'est de constituer une majorité à l'Assemblée nationale.
Oui, clairement, de toute façon, c'est un gouvernement de campagne électorale. Hein. La En Marche est en campagne électorale, comme d'ailleurs l'est la France Insoumise, hein, puisque ce sont les deux nouvelles formations qui ont émergé très fortement de l'élection présidentielle, laquelle a donné un signal très puissant à tous les anciens partis, enfin les partis classiques de la Ve République, qu'ils soient gros ou petits. Donc ce qui se joue effectivement, c'est maintenant la représentativité, le principe démocratique de représentativité. C'est-à-dire, les Français se reconnaîtront-ils dans leurs institutions? Alors, ils ne se reconnaissent pas dans l'institution présidentielle pour la raison que le deuxième tour était trop frustrant et qu'on ne pouvait pas faire valoir une opinion, vu que la seule opinion qui comptait, c'était non ou à l'extrême droite, qui est une opinion importante, mais pas très subtile, on va dire. Donc maintenant, ce qui se joue, c'est ça, la représentativité. Et c'est une chance, effectivement, pour les Français de conquérir un programme, celui de l'avenir en commun, avec ces éléments de mise en place de la 6e République, j'en parlais de l'écologie, mais aussi la justice sociale, parce que dans le fond, ce qui change, le dur du sujet, c'est que ceux qui veulent pas partager, ben nous, on veut bien partager, on veut bien qu'on partage avec nous, parce que les Français en ont marre de souffrir.
Encore faut-il avoir quelque chose à partager.
Et ben, ça tombe bien, la France est un pays extrêmement riche, et où il y a justement beaucoup de choses à partager.
Quelle leçon la France insoumise doit-elle tirer, selon vous, de la campagne et du résultat de l'élection présidentielle pour les législatives?
D'abord, je pense qu'on peut être fier de ce que nous avons réalisé à la présidentielle. Nous avons mené une très très belle campagne qui a su mettre en délibération des sujets. Sur la question de notamment la 6e République, le droit de révoquer les élus. Par exemple, la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, le vote blanc est nul. Et cette frustration démocratique qui existe dans ce pays, on l'a vu aussi au deuxième tour, on va le voir aussi au moment des élections législatives. Je pense que c'est important que ces personnes, ces 10 millions de personnes qui s'abstiennent notamment, sentent que il y a des militants politiques qui voient qu'ils existent et qui prennent en compte cette difficulté démocratique. Ça, je crois que c'est un acquis. La question de l'environnement aussi, le fait qu'on ne peut pas mettre d'abord les questions sociales et ensuite les questions environnementales. Il faut d'abord régler la protection de l'écosystème parce que sinon, il n'y a plus d'humanité tout court. Ces choses-là sont des avancées culturelles et maintenant, il faut les faire réalité. Ça ne peut pas être que des analyses magnifiques ou des propositions extraordinaires. Il faut les faire politiques, matérielles. Et c'est pour ça que nous cherchons la victoire aux élections législatives autour de Jean-Luc Mélenchon.
Sur l'Europe, la position de Jean-Luc Mélenchon, la position de la France insoumise reste inchangée. On quitte l'Union européenne si on n'obtient pas les changements qu'on demande.
Effectivement, le parcours de négociation avec les institutions de l'Union européenne telles que proposées par Jean-Luc Mélenchon était clair. Nous pensons qu'il faudrait que pour la première fois il y ait en France un président de la République et un gouvernement qui revendiquent par exemple l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Nous pensons donc que c'est possible de l'obtenir. Et tout en sachant que si nous ne l'obtenons pas, nous devons aussi être prêts à s'organiser dans une autre configuration avec d'autres États membres de l'Union européenne qui ne souhaitent plus être pénalisés par les politiques actuelles. Voilà, le dispositif, il reste inchangé.
Merci Raquel Garrido. Bonne journée.
Merci à vous.